faire une présentation un petit peu sans filet parce qu'on parle de beaucoup de choses passionnantes là et que je n'avais pas d'indication précise sur ce qui était attendu de nous au sein de cet atelier dont je n'avais pas vu de titre. Alors, j'avais pensé tout d'abord souligner le fait que, il me semble, nous sommes à une époque de l'histoire qui est un peu celle de la maturité de l'humanitaire. On doit parler d'ONG, on y reviendra, en fait on parle d'humanitaire pour l'instant, il faudra encore affiner un peu l'objet de notre intérêt, mais il me semble que c'est le contre-coup des errements des dernières années. L'humanitaire a maintenant plus de 60 ans, hein, c'est une maturité un peu tardive, mais c'est vrai que l'humanitaire a été protégé pendant très longtemps et sans doute trop longtemps par une sorte d'angélisme, par une sorte de tabou qui interdisait de mettre en question à la fois ses buts, ses moyens, et certaines des questions qui ont été soulevées au cours de la conversation montrent bien cela, puisque certains d'entre nous ont participé sans trop se poser de questions à cet engagement solidaire rempli de belles formules, sans trop se poser la question de l'efficacité par rapport aux objectifs affichés, par rapport aussi aux objectifs des gens qui étaient les bénéficiaires de l'aide, par rapport aux objectifs des bailleurs de fonds, parce que tout ça a un coût, et les bénéficiaires sont aussi non seulement ceux qui reçoivent, mais aussi ceux qui donnent, hein, d'une manière qui n'est pas forcément celle qu'avait envisagée Mauss, quoique, hein, le don et le contre-don, ils fonctionnent aussi dans l'acte de donner, tout simplement, même s'il n'y a pas de réciprocité. Il faut souligner que, d'ailleurs, la réciprocité n'est pas valable, n'est pas souhaitable non plus dans beaucoup de cas, quand on évoque l'aide humanitaire d'urgence, qu'il s'agit d'aller au secours de gens qui sont frappés par les catastrophes naturelles, ou bien réfugiés, chassés de chez eux, etc., on n'attend pas de participation, on ne met pas en œuvre un programme comme ça qui soigne autant les âmes que les corps. Alors peut-être qu'on peut le regretter, mais c'est vrai que agir comme un cow-boy, c'est peut-être aussi un gage d'efficacité dans beaucoup de cas, qu'il s'agisse du tremblement de terre au Pakistan ou ailleurs, si on n'est pas là dans les deux premiers jours, c'est pas la peine de venir. Et d'autres exemples encore plus extrêmes qui sont ceux du tsunami que tout le monde connaît bien maintenant, où il n'était pas besoin d'y aller, hein, d'une manière générale et globale. Et je crois que c'est ça, cette leçon du tsunami, avec tous les scandales de l'argent accumulé par des associations comme la Croix-Rouge en particulier, mais beaucoup d'autres, qui ne sont justifiables finalement d'aucune explication devant les tribunaux, devant leurs bailleurs de fonds, devant la République, qui sont au-dessus des lois finalement, des lois de leur pays de départ, des lois aussi du pays d'origine, eh bien, ça participe de cette maturation, de cette arrivée à maturité, je pense, de l'humanitaire. Le Darfour est un autre exemple, avec là aussi une marée d'organisations humanitaires qui sont venues au secours d'un peuple, sans en les maintenant juste en état de survie, mais sans intervenir du tout sur le fond, c'est-à-dire créant une frustration auprès des gens qui demandent à rentrer chez eux, qui demandent justice, et auxquels l'humanitaire n'apporte pas justice. Hein. Au contraire, l'humanitaire est manipulé, et c'est un cas d'espèce, mais il y en a beaucoup d'autres, par les gens qui ont en main le pouvoir d'oppression, pour faire durer, je dirais, le plaisir, hein, les tas de choses. Et l'humanitaire a donc été manipulé, et encore une fois, ça n'a rien de très banal, par le pays qui a accepté de recevoir cette aide, c'est-à-dire le Soudan, mais aussi par l'ONU, les puissances internationales, qui ont été contentes de ce que l'humanitaire joue son rôle de cache-misère, hein, et permettre d'éviter de prendre des mesures politiques qui avaient été non seulement annoncées, mais même décidées. Voilà. Ça, c'est ça participe de cette réflexion qui nous réunit aujourd'hui. C'est la troisième fois, et je crois que nous n'avons jamais été aussi nombreux, donc j'y vois un signe de réflexion de la part des acteurs qui sont là, mais aussi des chercheurs, parce que ça devient un objet de recherche assez problématisé, ou qu'il faut problématiser, par-delà, encore une fois, l'angélisme qui a prévalu jusqu'à maintenant. Alors, je me réjouis de ça, de ce que le cercle de réflexion s'élargisse, hein, et aussi qu'on se pose la question de la capacité des ONG à endiguer le mal, puisqu'on en est toujours là dans bien des cas. La définition des objectifs, c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on fait derrière le petit projet qu'on va faire? En quoi ça s'inscrit dans un effort global de développement? Moi, je récupère ce terme de développement depuis fort longtemps, parce que ce n'est pas le problème des gens. Le problème des gens, c'est de s'enrichir, hein, tout simplement, c'est-à-dire pour arriver à vivre au lieu de survivre, et puis au-delà, s'enrichir pour avoir accès à des services et à des biens dont ils savent qu'on peut les avoir ailleurs. Donc c'est pas du développement, il n'y a pas de plan de développement, tout ça est maintenant, je pense, dépassé. Hein. Mais ce sont ces capacités qu'il faut interroger, de manière que chaque ONG sache qu'elle ne va pas changer le monde, comme ça a été dit auparavant, mais elle s'inscrit dans le monde tel qu'il est, je pense. Mais là, il faudrait faire la différence entre les ONG, je dirais, droits de l'homme, et puis les ONG humanitaires. On n'a pas parlé de celles qui s'intéressent aux droits de l'homme et qui s'intéressent aux politiques d'une manière générale, à la question du pouvoir, et c'est un petit peu embêtant parce que même si ça rend le jeu plus complexe, la réalité est complexe, et il y a une interaction et parfois même une confusion entre les deux, hein, c'est le kouchnérisme qui a essayé de mélanger les deux pour arriver à rien du tout finalement, ni à un progrès humanitaire, ni à un progrès en matière de droits de l'homme. Mais les deux ont des raisons d'être, les deux ont de modes de fonctionnement, ont des, je dirais, des approches et des buts qu'il faut comparer et peut-être croiser d'une manière intelligente, c'est-à-dire chacun restant dans son domaine de compétences. Mais la maturité, c'est aussi ça, me semble-t-il. La maturité, c'est aussi celle de l'opinion publique, donc en Occident, qui commence à se poser des questions et qui certainement a été généreuse et a voulu manifester ce qui est le propre peut-être, ou un des aspects propres de la civilisation occidentale, si on peut encore employer ce terme, c'est-à-dire la prétention à la fraternité universelle. Alors que sur le fond, cette civilisation n'a pas plus de valeur que les autres, mais elle a cette prétention à l'universalisme, malgré l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage, etc. Alors aujourd'hui, les gens donc se posent des questions et par rapport peut-être au coût de tout ça, à la rentabilité de tout ça en termes de supplément d'âme, parce qu'en échange de l'argent que les gens versent, ils veulent un supplément d'âme, ils veulent être confortés dans la supériorité de l'Occident, qui fait ce que d'autres ne peuvent pas faire, hein, c'est-à-dire que d'autres n'auraient pas ces préoccupations humanitaires. Je crois qu'aujourd'hui, on en revient, l'humanitaire progresse dans beaucoup des pays qui sont récipiendaires de l'aide. Et puisqu'on parle spécifiquement du monde arabe, hein, je crois qu'il faudrait revenir à cette spécificité qui permet d'avancer peut-être un peu plus en profondeur, mais dans le monde arabe, il y a des ONG locales, des ONG qui se battent pour les droits de l'homme, qui se battent pour le progrès politique, et qui se battent aussi dans l'action sociale, hein, auprès des éboueurs du Caire, par exemple, mais dans bien d'autres domaines, pour l'éducation, pour la santé. Et ces ONG sont en dehors de l'écran jusqu'à présent, à la fois de nous ici et des humanitaires en France. Disons que le passage, le mariage des uns aux autres est quelque chose qui est encore à travailler, puisque là, les questions ne se posent pas dans les mêmes termes. Et par exemple, si les gouvernements, malgré la liberté de la presse, plus ou moins, ouverte qu'ils accordent à leurs médias, sont toujours très, comment dire, vigilants quant à leur monopole du pouvoir, quant à leur autoritarisme ou totalitarisme, ça n'est pas contradictoire avec la liberté de la presse. Tant que la liberté de la presse ne menace pas ce pouvoir, d'une manière pas très concrète, très bien. Pour les ONG, justement, locales, elles sont beaucoup plus vulnérables, sans doute, à des pressions, elles ont une marge de manœuvre plus limitée que celle qui émane de l'Occident, pour différentes raisons, tout simplement parce que ces pouvoirs autoritaires et totalitaires sont extrêmement sensibles, enfin sont sensibles, dans la plupart des cas, à la mesure, en mesure inverse de leur force, hein, de leur pouvoir, elle aussi d'équilibre vis-à-vis de l'Occident, eh bien, les pouvoirs les plus totalitaires peuvent être extrêmement sensibles aux opinions publiques occidentales, beaucoup plus qu'à celles de leurs propres opinions publiques, bien entendu, qui n'en peut mais, qui peut lire le journal et regarder la télévision, descendre dans la rue et se faire matraquer, être conduite dans les chambres de torture ou en prison, et tout ça ne fait pas avancer beaucoup les affaires. Donc, il y a là un levier, effectivement, sur lequel il faut réfléchir, et sur ce pouvoir qu'il y a d'aider à l'évolution, je veux dire à l'entrée des organisations humanitaires à leur travail par le biais des opinions publiques occidentales. Il y a donc un travail au niveau des médias qui est à faire, qui est aussi sous cet angle-là. Et puis s'interroger pourquoi, de façon liminaire, il y a une liberté de la presse dans beaucoup de pays arabes qui progressent. Hein. Il y a aussi une dimension peut-être de pouvoir ou d'influence ou de contre-pouvoir. La presse ne rapporte rien, la télévision non plus, ça coûte de l'argent aux bailleurs de fonds originaires de ces pays, qui sont des milliardaires et qui créent des organes de presse. Donc là, j'y pense, puisqu'on a entendu tout à l'heure de Mohamed El-Wafi une présentation brillante et informée du rôle des médias dans le monde arabe. Moi, je me pose encore cette question de savoir quel rôle les médias du monde arabe peuvent jouer pour informer sur ce qu'est l'humanitaire, pour aider au développement d'organisations humanitaires ou d'ONG dans leur propre pays. Voilà. Bon, ça c'était, si vous voulez, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant où il faut nous interroger sur le rapprochement entre chercheurs et acteurs, bien entendu, d'une manière beaucoup plus déterminée que ça n'avait été le cas jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent les humanitaires sont assez frileux quant à l'idée de faire appel à des gens qui ont certaines compétences qu'ils n'ont pas, et puis dans la mesure aussi où les chercheurs, eux, sont plus habitués à travailler pour la communauté scientifique dans la quiétude parfois de leur cabinet, de leur colloque, que d'aller vers le terrain, ou vers un terrain en tout cas, qui est un terrain qui n'est plus marginal, qui est un terrain qui tend à devenir dominant, qui est celui de l'instable, de la violence, de la guerre, de l'instabilité, donc sous toutes ses formes, et je crois que ça implique de part et d'autre de revoir leur métier et la façon de faire leur métier. Je pense là que pour les acteurs, il est... Je pense l'enjeu est d'améliorer l'efficacité leur travail par une compréhension de l'environnement sur laquelle ils ne peuvent plus faire l'impasse, parce que l'environnement devient de plus en plus complexe, de plus en plus dangereux, et la position des acteurs aux yeux des bénéficiaires ou aux yeux des gens du terrain n'est plus justement non plus tabou. L'humanitaire est visé, il est menacé, il est pris en otage, il est assassiné, et il faut se demander pourquoi il y a ce hiatus de compréhension entre le terrain et puis l'humanitaire, plein de bonne volonté, mais peut-être maladroit, peut-être aussi vu comme ayant des intentions non gratuites, ce qui peut être faux, mais ce qui peut être vrai aussi. Hein. Il y a une dimension qui augmente de plus en plus de l'humanitaire comme participant d'un pouvoir d'influence, comme on le dit maintenant dans les cercles de la République ici, mais l'humanitaire n'est plus tant non gouvernemental que ça, puisqu'il dépend pour l'essentiel d'argent qu'il faut obtenir à Bruxelles, à New York, à Genève ou à Paris tout simplement, et que donc il faut répondre à des demandes qui sont implicites ou non. Chez les bailleurs de fonds, hein, qui ne vont pas dire forcément les choses comme ils les entendent, mais qui vont sélectionner les gens qui recevront cet argent en fonction de leur capacité à répondre à ces demandes, qui ne sont pas forcément des demandes des bénéficiaires. Voilà, donc complexité qui est aussi à ce niveau-là. Du côté des chercheurs, pour faire court, il y a donc la nécessité de faire un travail aujourd'hui de plus en plus qui sera vêtu d'une utilité sociale visible. Et cette utilité sociale n'est plus reconnue tellement dans ce qui est le domaine de la recherche, le CNRS, ou bien l'enseignement supérieur. Nous sommes dans une belle maison chargée d'histoire, mais l'avenir n'est plus dans ces belles maisons chargées d'histoire aujourd'hui pour les chercheurs. Il est dans d'autres domaines qui sont l'expertise, on va dire, au sens large. C'est de plus en plus là que les doctorants aboutiront parce que on a du mal dans notre vieil Occident à renouveler ou à mettre à disposition les moyens qui permettraient de se projeter non seulement dans l'avenir mais aussi sur d'autres espaces que le nôtre. Il y a une rétraction évidente, on le voit quand on parle de télévision, les Russes, les Chinois, bon, qu'est-ce que c'est que France 24 par rapport à la quatrième chaîne de télévision chinoise en langue arabe, hein, ils ont mis 5 milliards de dollars pour faire leur chaîne de télévision, et nous on paye à peu près 100 millions d'euros, 50 millions, je ne sais combien, pour faire notre petite chaîne en boucle qui n'intéresse finalement personne dans les pays où on l'envoie. Et donc c'est un peu cette vision, les chercheurs doivent se rendre compte de l'état de la planète et comment leur mission sociale va s'inscrire dans cette direction. Alors il n'y a pas que l'humanitaire, bien entendu, il y a tous les métiers de l'international, entre la diplomatie, le journalisme, les affaires. Si on va à New York, à l'ONU, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin criant d'experts, de gens qui parlent la langue, qui est une expérience de terrain. Au lieu de ça, on a des... Quand on fait des... J'ai dirigé un panel d'experts, justement, sur le Darfour. Eh bien, ce sont vraiment des experts de rencontre, hein, de contrebande. D'autant que on passe d'abord par des péréquations entre continents, entre pays, entre métiers, et que la France a une place de plus en plus réduite dans tout ça, alors que nous avons une expérience, une connaissance accumulée qui est incontestée et inégalée par qui que ce soit, hein, y compris par les Américains, les Russes, les Chinois, éventuellement même les Britanniques, sans parler des Indiens ou des peuples d'Afrique. Donc, je n'ai pas un discours pessimiste par rapport à ça. Je crois qu'il faut que les chercheurs restent eux-mêmes, c'est-à-dire s'interrogent sur le pourquoi des choses et pas seulement sur le comment, comme des gens qui travaillent dans des bureaux d'études, hein, qui mettent en musique une politique. Non, il faut s'interroger sur la politique elle-même. Ça reste le cœur du métier de chercheur, que l'on fasse du développement rural ou que l'on travaille pour une ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International ou autre. Donc, le chercheur doit rester lui-même, mais doit être capable de comprendre quels sont les enjeux des humanitaires, puisque pour se cantonner à eux. Et je pense que ce ne sont pas... On est actuellement au stade des collaborations ponctuelles. C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un pour répondre à une demande, donc on prend un spécialiste, qui est rarement spécialiste de la question demandée, hein. Parce que être spécialiste d'un pays, pour moi, ça n'existe pas. On est spécialiste d'une thématique, et cette thématique, il faut pouvoir la décliner selon les pays. Mais ça, c'est pas encore bien compris. Et puis alors, la tribu, machin, où il y a 10 000 personnes qui sont sur une frontière et qui sont en danger de mort, il n'y a pas de spécialiste. Alors, être spécialiste de l'autre peuple qui est à 50 km de là, c'est pas la même chose. En tout cas, il faut donc s'adapter à ça et être capable aussi de s'inscrire. Je pense qu'à terme, ça sera ça, c'est que les chercheurs s'inscrivent comme des professionnels de l'humanitaire et travaillent pour des organisations humanitaires, qu'ils en fassent une carrière et que les humanitaires le comprennent et qu'ils puissent inséminer leur savoir, qui est plutôt un mode de réflexion sur l'objet plutôt qu'un savoir tout cuit. Le savoir, ils l'acquièrent eux aussi en allant sur le terrain difficile. Mais après, il faut être capable de passer d'un terrain à un autre, hein, aller du Nicaragua au Mozambique, et sortir de ce champ clos des aires culturelles dans lesquelles nous sommes formés. Évidemment, on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde, mais je pense qu'il y a des mécanismes, il y a des compétences comme ça qui sont complémentaires, qui deviennent indispensables pour les uns et pour les autres. Ah bah, ton...